Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie? Oh, ben vous savez, dans la vie, il ne faut jamais chercher ce qui vous fait marcher. Il faut simplement marcher et ne jamais essayer de comprendre pourquoi on marche. Donc, moi, je pense que je marche. Et puis, si je tombe sur quelque chose d'intéressant, d'extraordinaire, je m'arrête. Ou même d'insignifiant, je m'arrête pour le rendre signifiant. Donc, je n'ai pas vraiment précisément dans mon existence quelque chose que je pourrais dire que ça, ça me fait marcher ou ça ne me fait pas marcher. Donc, je reste toujours un homme qui marche et qui s'étonne. Et c'est grâce à l'étonnement, justement, que j'ai créé. Parce que celui qui ne s'étonne pas n'aura jamais créé. C'est toujours quelqu'un qui a des certitudes. Or, le marcheur, le vrai, celui qui erre, celui qui migre, c'est quelqu'un qui va à la découverte, qui s'étonne, qui s'arrête, et puis qui un jour fait le bilan de ce qu'il a fait dans son errance pour partager à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir annoter l'étonnement.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Alain Mabankou, auteur d'une dizaine de romans, dont Petit Piment, paru aux éditions du Seuil.
Vous êtes encore jeune pour faire le bilan.
Non, mais vous savez...
Quoi qu'un bilan, ça peut se faire par étapes.
Hein. Voilà, donc je ne pense pas qu'il faille être vieux pour faire un bilan, parce que si la longueur, si la sagesse se mesurait par la longueur de la barbe, même le bouc serait des philosophes, donc c'est pas possible que toujours on puisse penser que pour être sage, pour réfléchir, il faut tel âge. Il y a des vieux cons, il y a des jeunes intelligents, il y a des jeunes intelligents, il y a des vieux cons. C'est des Brassens. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Les cons caducs ou les cons débutants, les cons de la dernière espèce, dit-il dans la chanson, il y en a en nombre, en quantité industrielle, je pense. Mais bon, il ne faut pas non plus faire comme à l'époque on avait des écrivains à paillettes, comme les Lolita Pille ou je ne sais pas quoi, qui avaient écrit leur mémoire à 19 ans. Et puis vous voyez ce qui est arrivé, il n'existe plus. Ni le livre, ni elle, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. En tout cas, je n'en entends pas parler. Ça apprendra aux gens d'écrire des livres fast-food à l'âge de 19 ans et fatiguer les pauvres libraires qui n'ont pas le temps de vendre Musset ou je ne sais pas, Ronsard. Voilà. Je suis un peu dur, mais bon, il faut.
C'est un professeur. Vous avez combien d'idées de projets de romans en tête?
Mais je pense que je vais toujours idée par idée, livre après livre. Je commence beaucoup de choses au même moment et puis je termine la chose qui est la plus avancée. Et puis une fois que j'ai fini la chose qui est la plus avancée, qu'elle est publiée, je retourne faire un peu le bilan. Enfin, je retourne un peu fouiller les tiroirs et voir où en sont les autres choses que j'avais commencées. Et je continue celle qui était la plus avancée de toutes. Donc c'est toujours comme ça. Donc je dois avoir peut-être 3 ou 4 récits comme ça que j'ai commencé. 30 pages par-ci, 60 pages là-bas, 80 à l'autre. Et aussi j'ai les poubelles. Les poubelles, c'est l'endroit où je jette tout ce qui n'a pas pu être mis dans tel ou tel livre. On pense toujours que c'est à jeter, mais à la fin, il faut prendre dans ces poubelles des éléments qui peuvent faire un autre livre. Un seul personnage jeté dans une poubelle, si vous l'apprenez, peut-être que c'est ce personnage qui va faire votre livre. Donc j'aime bien ce principe d'avoir de la poubelle et des manuscrits en cours. Et je peux même dire que la poubelle est plus importante que les manuscrits en cours, parce que dans la poubelle, il y a déjà quelque chose qui aurait pu être mangé, qu'on a dit non, il ne faut pas trop manger, ça risque de vous donner de l'indigestion. Et comme vous arrivez, vous avez faim, vous allez reprendre la chose qui est dans la poubelle. L'avantage avec la poubelle d'un écrivain, c'est que les choses qui sont à l'intérieur ne pourrissent pas. Il n'y a pas de chien pour les manger. Donc à tout moment, on peut venir remuer la poubelle, reprendre quelque chose, manger maintenant à sa faim. Et ça donne parfois un livre grand, excellent, meilleur que les précédents.
Les mots ont un sens.
Oui.
Je ne suis pas sûr que poubelle soit le mot exact. Ça pourrait être garde-manger, frigo, voire congélateur.
Oui.
Parce
oui.
que vous ne jetez pas, parce que les poubelles, généralement, c'est du rebut, ce n'est pas quelque chose qu'on consomme. À moins qu'on soit vraiment dans la nécessité de...
Oui. Oui, oui, je pense quand même que le terme de poubelle m'irait bien, parce que j'imagine comme à l'époque quand on écrivait sans les ordinateurs, on avait une machine à taper, à écrire, et puis on avait une corbeille en bas, les papiers froissés, on les jetait par terre, on les jetait dans la corbeille. C'est vraiment quand je pense à la poubelle, j'imagine un papier froissé que je jette dans une corbeille. Je n'imagine pas dans le sens de l'endroit où on jette les détritus que viendrait prendre la mairie ou la voirie. Donc je sais que le terme poubelle, il faut le prendre dans un sens peut-être un peu plus de conservation que d'élimination où on se débarrasserait de quelque chose. C'est vraiment... Ça serait même une sorte de, comment on appelle ça, de grenier. Voilà, ça pourrait être un grenier dans lequel on met quelque chose. Ça pourrait être aussi une cave. Voilà, il y a un sens de rangement quand même. C'est une poubelle rangée. Voilà.
Une poubelle ordonnée.
Voilà, une poubelle très ordonnée.
Là, nous empruntons un passage un peu périlleux, mais
voilà.
Nous allons survivre à cette traversée de bus et de tramway. On va parler de Petit Piment, votre
oui.
dernière livraison du
oui.
moment, parce qu'il y en a plein d'autres derrière,
oui,
je
oui.
suppose. Ça remonte à quand, la première ligne?
Oh, la première ligne de Petit Piment, je pense que je l'avais écrite à Pointe-Noire, quand j'étais en train d'écrire... Lumière de Pointe-Noire, qui était un livre plutôt autobiographique. Et donc, par voie de... Peut-être aussi par le fait qu'à côté de l'autobiographie, je m'étais dit que le roman était quelque part aussi. Moi, je pense même qu'au fond, Petit Piment est la version romancée de Lumière de Pointe-Noire, puisque Lumière de Pointe-Noire, c'est un livre de retour au pays natal, le Congo, ville de l'enfance, Pointe-Noire. Et quand j'arrive, je décris une sorte d'autobiographie de la ville à travers la famille. Et il fallait romancer tout cela. Prendre une histoire qui est Ponténégrine, de Pointe-Noire, et tracer le portrait aussi de la rue, des gens qui ne sont pas les membres de ma famille, mais des gens sans qui cette ville n'aurait pas une histoire ou une âme. Donc j'ai vu que si je n'étais pas parti en 2012 au Congo, si je n'avais pas écrit Lumière de Pointe-Noire, eh ben, je n'aurais pas écrit Petit Piment. Je pense que Petit Piment, c'est le roman, c'est la version romanesque de mon retour au pays natal, mais à travers la vie d'un autre individu, cet orphelin, qui pourrait aussi avoir quelques traits avec moi. Il est orphelin, je suis orphelin également, mais sauf que lui, il a été adopté. Bon, il a été adopté, non, il a vécu dans l'orphelinat. Moi, j'ai été adopté, donc je pense qu'il y a beaucoup de similitudes. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une version romanesque même de ma vie.
Et vous avez fréquenté les péripatéticiennes dans votre enfance ?
J'ai été en face. J'ai vécu dans le quartier où ces péripatéticiennes étaient les mamans à qui on faisait quelques commissions. Quand elles voulaient acheter de la bière, elles nous envoyaient, puis nous gardions de la monnaie. J'ai vécu le quartier Rex, le quartier de mon enfance. C'est là qu'il y a le quartier 300. C'est un peu un grand quartier dans lequel il y a un petit quartier. C'est comme un peu... à Los Angeles, dans lequel, à l'intérieur, vous trouvez Beverly Hills. Sauf que, dans ce sens, Beverly Hills, c'est différent. Voilà quoi.
Il y a toujours le choix du nom du personnage. Là, vous prenez un risque, parce que moi, je suis incapable de le retenir. Et vous, alors, est-ce que vous êtes capable de le retenir ou il faut que vous lisiez les trois premières lignes ?
Non, moi, je les retiens parce que c'est le... Moi, je le retiens parce que c'est écrit dans ma langue. parce que c'est écrit dans ma langue du Congo. Donc il m'est facile de dire Tokumi Sanzambe Pomosi Amoyindo Abotami Namboka Yabakoko. Ça c'est son nom. Tokumi Sanzambe Pomosi Amoyindo Abotami Namboka Yabakoko. Ça va, hein, mon frère?
J'adore ce que vous écrivez. Surtout, je vais dire que. Excusez-moi, j'ai ma boutique qui est là.
Il n'y a pas de problème, mais on avance vers votre boutique là, on sera plus tranquille. Hein.
Allez, on va chez Gilles et Julie. Bon.
L'odeur du cuir. Vous êtes congolais?
Non, je suis pas congolais, mais je veux m'affirmer comme français à part entière.
Ah oui, mais c'est important, voilà. Oui, bien sûr. Oui. Mais ça fait plaisir, parce que je dis ça parce que comme les Congolais, ils sont un peu amoureux de Weston, de la Save, je m'étais dit que vous étiez...
Non, on va dire que, à ce qui me concerne, c'est que je suis amoureux d'un travail ancestral qui est de la maroquinerie. Et je pars d'une école de style, mais... Mais adorant le travail ancien qui était le cuir, donc voilà, je me suis rabattu au cuir.
C'est intéressant ça. Wow.
Il y a une odeur, on ne peut pas la restituer à la radio. Hein.
Mais là, c'est dommage qu'à la radio, on ne sente pas cette odeur qui est ici. Tout ce qu'il y a comme travail, on dirait qu'il y a beaucoup de spécialisations en ceinture aussi. Hein.
On va dire que pour en revenir, pourquoi je vous ai interpellé, oui. C'est parce que j'adore vos expressions, j'adore votre façon d'écrire. Je ne l'ai pas encore lu, mais ne serait-ce que quand sur des émissions où j'ai pu tomber sur vous, et garder surtout votre veste, parce que c'est celle-là qui m'a...
Ah
c'est
bon
le rappel, surtout artistiquement, c'était décoration très orient, j'adore votre expression, j'adore vos prises d'opposition, sont toujours celles intellectuellement auxquelles il faut chercher pour comprendre. Voilà, c'est surtout cette façon de défendre vos positions.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci.
Qu'on le partage ou qu'on ne le partage pas, la façon dont vous le défendez artistiquement d'une légèreté dont moi, j'ai à chaque fois que je tombe sur vous, j'écoute attentivement vos dires.
Merci beaucoup. Voilà. Merci.
Est-ce que dans votre enfance, vous avez eu un surnom?
Si, dans mon enfance, j'ai eu un surnom.
Lequel?
Celui de De Gaulle, d'ailleurs.
Ah oui. De Gaulle, waouh.
Si.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que j'avais une attitude de leader, j'avais une attitude de meneur d'homme.
Et votre enfance, vous l'avez passée où?
Mon enfance, on va dire que de mes 0 à mes 13 ans, je l'ai passée au Cameroun. Et de mes 13 ans, aujourd'hui 28 ans, je l'ai passée en France. Oui.
Est-ce que dans votre enfance, vous avez été frappé par une personnalité, un adulte?
Vous avez... Ça dit marqué. Marqué ou...
Marqué, marqué.
Ah d'accord, je croyais frappé.
Marqué.
On va dire c'est-à-dire que oui, j'ai pu avoir des gens de l'Afrique à aujourd'hui dont je n'ai pas particulièrement le nom. C'est-à-dire que moi, un jour, j'allais dans un tribunal me balader parce que quand on est né dans une banlieue, dans n'importe quelle ville, quand on a l'opportunité d'arriver en ville, on va toujours dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'y aller. Je suis entré dans un tribunal, j'ai vu un avocat qui parlait en tournant la veste sur lui avec une certaine gestuelle auquel il m'a vraiment marqué. Je suis rentré chez moi, je n'avais pas le nom, mais j'ai dit à mes parents... Mais c'est ce métier-là que je vais faire. Ils m'ont dit, mais toi, con comme tu es, je ne pense pas que c'est ça que tu vas faire. Ils m'ont tout de suite indiqué la voie du garage qui était un pouce-pouce auquel c'est ça que j'étais censé faire dans mon futur. Bon, ma foi, ça n'a pas été avocat, mais j'adore mon métier. Donc, cette personnalité dont je n'ai pas le nom, il m'a marqué par sa façon dont il défendait quelqu'un avec une gestuelle, avec sa tenue sur lui. C'était ça, mais je n'ai pas eu vraiment le nom. J'ai pas le nom.
Un avocat anonyme.
Un avocat anonyme, oui.
Oui, mais ça, c'est beaucoup, même nous en Afrique. Hein, on allait au tribunal pour voir. Les procès, c'était des spectacles. Hein, c'était la joute, je comprends. Moi, j'ai fait le droit parce que j'avais aimé aussi, comme Gilles, ses avocats, la manière de balancer les manches, de lancer de l'autre côté, de prendre un air affecté.
Nous accompagnons dans la rue Alain Mabankou, auteur d'une dizaine de romans, dont Petit Piment, paru aux éditions du Seuil.
on croyait qu'on gagnait les procès par l'éloquence. Mais après, il y a les preuves. Je pense que c'est ça, surtout. Hein. C'est pour ça qu'on pensait toujours, oui, il faut que je sois avocat pour parler comme ça, pour avoir ces diatribes, ces envolées oratoires.
Voilà. Deux petites dernières questions, puis après, on va poursuivre notre quête. J'essaie de restituer ma lecture du roman au travers de mes questions. Est-ce que vous êtes arrivé de venger un copain maltraité par d'autres enfants quand vous étiez jeune?
Ah ben ça oui, le fait que j'avais le surnom, justement ce surnom de De Gaulle, c'est parce que l'injustice a été toujours quelque chose dont je l'ai toujours pris, je l'ai toujours pris pour moi. C'est-à-dire que l'injustice n'est pas celui dont, non, c'est quelque chose que je le défends. Je le défends très fortement, donc à chaque fois qu'il y avait un copain, forcément le fait d'être celui qui était un peu plus excité que l'autre n'était pas forcément le plus fort, mais le fait que j'étais plus excité, les gens avaient peur de moi, donc à chaque fois que j'avais un copain qui était un peu tapé par un autre, voilà, il fallait que j'aille défendre, il fallait surtout mes trois copains, il fallait pas y toucher. Donc voilà, oui, ça me suis arrivé de défendre de mon adolescence, de défendre par les bras, mais aujourd'hui c'est pas le cas, non.
Par les bras, vous pensez que le piment c'est une bonne arme?
Le piment, ça dépend de ce qu'on appelle piment. Le piment ne va pas. Le piment, pour moi, je veux toujours, autant qu'à chaque fois que je le vois dans ces débats, le piment, pour lui, peut être plusieurs choses. Ça peut être, je ne sais pas, quelque chose qui chauffe. Ça ne peut pas être le piment en lui-même. Ça peut être un tout. Ça peut être un crime. C'est-à-dire que ça peut être tout. Voilà. Le piment, ça dépend de comment on le décrit, le piment.
Votre piment.
Eh bien oui, il a même dit le piment peut être un crime. Pourtant, il n'a pas encore lu le livre, mais le piment, oui, dans le roman, oui, est un crime également, hein, je pense. Vous voyez, déjà, il peut, par sa prescience, déjà imaginer ce qui pourrait se passer. Je pense que, bon, le piment, c'est ça aussi. Hein, c'est ce qui met un peu, qui soulève les questions. Ça peut être une arme, ça peut être un aliment, ça dépend. Tout est piment. Et comme tout est piment, j'ai préféré dire petit piment. Voilà.
Dernière question. Vous avez fugué dans votre enfance?
Fugué, non, je n'ai pas fugué dans mon enfance. Je ne sais même pas appeler ça fugue, mais je vais juste dire que le fait de faire beaucoup de bêtises que j'ai pu faire de mon enfance fait que parfois je me suis caché juste à côté de la maison sans toutefois être à la maison, mais dans le coin du mur en voyant les parents passer, mais on a peur de venir parce qu'on n'est pas rentré à l'heure. Donc là, si c'est ça fugue, oui, c'est que je l'ai fait.
Très très heureux de voir tout ce travail qui est abattu ici. Hein. Ah ouais, très, très très heureux de voir le cuir, l'odeur du cuir. J'ai l'impression d'être dans une entreprise, et c'est le cas, hein, artisanale. On sent encore vraiment le métier. Tout est du début jusqu'à la fin. C'est même drôle pour moi de savoir que c'est au centre-ville à Nantes. Souvent, ça aurait pu être caché dans un village quelque part, en Charente-Maritime. Non, c'est à Nantes, en plein cœur de la ville. Il y a de l'artisanat.
Bon. Merci Gilles, bonne continuation.
Merci hein, Gilles. Hein.
Le plaisir étant pour moi.
Merci.
Et que continue, ce sont des œuvres que vous défendez.
Okay. Voilà. Merci hein, Gilles.
Je pense que je le lirai.
Il n'y a pas de problème, Gilles. Merci.
Merci.
Au revoir.
Être repéré par sa veste, c'est beau.
Être repéré par la veste, bon, mais il faut dire aussi que je porte un peu des vestes atypiques. Hein. Voilà, qui sont faites par un styliste congolais, Jocelyn Le Bachelor. Donc évidemment, il y a toute la partie un peu extravagante de la mode congolaise qu'il concentre. Il ne fait pas une veste qui serait ordinaire. Il ne prend pas des couleurs timides. Il prend toujours des couleurs chaudes, éclatantes et parfois même qui tranchent avec la saison en cours. Si vous êtes en hiver, il peut vous habiller en violet, en rouge. Ce sont des couleurs qui effraient souvent les Occidentaux.
Dans notre échange, j'ai bien posé les bases du roman.
Oui, je pense que les bases du roman ont été posées, que ce soit le fait de dire à notre ami Gilles le nom, le surnom, la fugue, le piment. Et tout d'un coup, il a dit le piment, ça peut être un crime. Et pas, comme par exemple, il y a un crime aussi à l'intérieur du livre.
Il ne faut pas tout dévoiler.
Non, on ne dévoile pas. On ne sait pas si c'est en première ou à la dernière page, ou c'est un vrai crime ou pas, ou c'est explicite ou pas. Ça, c'est le mystère du roman.
Voilà. C'était prévu que ça se déroule comme ça ?
Dans le roman ?
Oui.
Non, moi, je ne prévois jamais ce qui va s'écrire dans le roman, encore moins l'intrigue. Je laisse passer les choses. Je découvre, en fait, l'histoire au moment où je suis en train de l'écrire. J'ai une idée du personnage, je commence à écrire, et c'est le personnage qui me conduit. En réalité, je suis comme un lecteur. Quand j'écris, je me dis, si j'étais un lecteur, quel type de livre aimerais-je écrire et qui me ferait plaisir au moment où je le lirais. Donc à ce moment déjà, je fais appel à mon intuition de lecteur, à ma conscience de lecteur, à peut-être mes exigences de lecteur. Je veux dans un livre qu'il y ait à la fois l'éclat de rire, qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait parfois aussi de la loufoquerie, que parfois les personnages soient crapuleux, mais aussi vertueux. Donc je veux que le roman soit le monde dans lequel j'aimerais entrer pour corriger les aspérités de la vie quotidienne. Je pense que c'est ça.
Vous voulez parler ? Vous allez dire bonjour à la Duchesse ?
La Duchesse ?
La Duchesse Anne. Le château derrière.
Ah, j'ai eu peur. Je me disais, ah mais bien sûr, ça me ferait plaisir. Hein. J'aime bien la compagnie des Duchesses. Je ne suis pas très fort lorsque je calcule ce que je dois écrire. Tout ce qui est leader, tout ce qui est groupe, tout ce qui est organisation, je découvre ça pendant que j'écris. Et même l'organisation, même formelle du roman, c'est fait a posteriori. Il y a des choses que vous pouvez écrire dès le départ. Vous êtes allé trop vite ou bien vous les avez mises trop loin. Donc il faut réorganiser par la suite. L'aspect, la dimension politique, tout ça là, c'est des dimensions qui, pour moi, sont naturelles. Je viens d'un pays où la littérature n'est pas un luxe. La littérature est un cri qui vient du ventre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir simplement une littérature d'amusement. Hein, à 100%. Même lorsqu'on s'amuse, il y a dans cet amusement-là une dimension politique qui ne peut échapper à l'Africain qui lit. Tout simplement parce que notre existence en Afrique est prise en otage par les pouvoirs politiques. Et ces pouvoirs politiques, évidemment, deviennent nos personnages. On les croque à notre manière, selon la liberté qu'on nous laisse de les croquer. Évidemment, un écrivain en Afrique n'écrit pas de la même manière que celui qui est en Europe. Et il va toujours avoir un moyen où l'écrivain qui vit en Afrique doit composer ou bien doit esquiver la terreur d'une dictature sur place. Puisque la plupart du temps, les ennemis de l'écriture en Afrique sont toujours les hommes politiques. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment un écrivain peut avoir autant de pouvoir alors qu'il n'est pas ministre, alors qu'il n'est pas président de la République. Ça, c'est le pouvoir d'inventer le monde. C'est le pouvoir de dénoncer. La littérature africaine est une littérature qui inclut la dénonciation, même lorsque nous avons un éclat de rire qui passe à travers les pages. Et cette dimension est souvent rare dans une certaine littérature que je lis en Europe, en particulier en France, où l'essoufflement de l'autofiction fait que tout est sujet de tout. Et à la fin, eh ben c'est la littérature parfois qui perd de sa force. Voilà.
Je vous présente la Duchesse.
Voilà.
La Duchesse Anne.
On salue la Duchesse Anne, toujours là, aussi resplendissante et belle. Voilà. Et c'est toujours écrit que la duchesse de Bretagne, reine de France, Anna, voilà, tout est là, 1477-1514. Voilà. Ça fait toujours plaisir quand je passe ici de la voir avec ce grand front très brillant et c'est très fin.
On ne va pas la comparer à Madame Fiat 500.
Non, on ne peut pas la comparer, mais elle a quand même une cambrure très, très imposante. Vous savez, à l'époque, la cambrure, les fesses, étaient un élément de beauté très intéressant. Plus ils étaient forts, mieux c'était. C'est maintenant qu'on nous impose des anorexiques comme critère de beauté. Mais je préfère toujours quand je vois ces femmes plantureuses, comme ici. Je ne sais pas si c'est la sculpture qui a abusé, mais à tout faire, j'aime toujours avoir plus et de ne pas regretter d'avoir trop moins.
Vous pensez qu'un jeune lui aurait porté ses sacs au regard de sa cambrure ?
Ah,
là,
oui.
Là, je fais référence au livre.
Oui, un jeune aurait porté au regard. Elle a du charisme, un jeune aurait pu porter son sac au regard de sa cambrure. Donc, j'en profite même de faire un petit selfie. Hein. C'est dommage parce qu'à la radio, vous ne voyez pas ce que nous sommes en train de faire. Je fais mon selfie, si j'arrive à le faire, je fais mon selfie avec mon téléphone portable, ce qui me permettra de mettre l'actualité sur Twitter. Voilà. Ah, mais on ne vous voit pas. Voilà.
Non, mais moi,
il faut qu'on
voit. On ne voit pas la duchesse.
Hein. On ne voit pas la duchesse. Ah ben voilà,
elle tend les bras.
Elle, voilà. Et je crois que c'est vous qui barrez. Voilà, la duchesse.
Attends,
voilà.
Non, non, là, faut que...
Alors, comme ça, la duchesse, ouais, voilà.
Voilà.
Mais le micro à la bouche, quand même. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
un peu élevé, le micro,
voilà,
le micro.
Comme
ça. Voilà.
Et un peu la duchesse.
Voilà. Voilà. Et nous l'avons.
Et là, vous pouvez me la transmettre, je la mettrai en podcast.
Ah oui, je transmettrai parce qu'on a la duchesse derrière. Vous êtes là, je suis là, et on a le micro.
Ah, vous êtes souriant, moi, je
ah oui, mais parce que vous connaissez trop la duchesse Anne. Moi, il m'arrive de la voir seulement tous les 4-5 ans. Quand je viens ici, je ne passe pas forcément là.
Bon, je vous donnerai mon mail parce que je la mettrai en podcast. Ça
oui.
Comme ça, les auditeurs
ah, oui, oui, ils verront.
Et verront.
Voilà.
Ce que nous avons pris. Ça, ça m'évitera de prendre la photo et de la louper.
Ah, voilà, tout à fait.
Merci à Alain Mabankou, auteur d'une dizaine de romans dont Petit Piment paru aux éditions du Seuil, et merci à
Gilles
pour leur libre participation à ce reportage enregistré à Nantes avec la complicité de l'espace Louis Delgrès.
C'est toujours un plaisir, Gilles. Il fait partie peut-être de ce qu'on appelle peut-être de manière impropre les Noirs de France, puisqu'il est arrivé ici à 13 ans, donc mineur. Il est venu du Cameroun, mais il s'est défini français. Et voilà, donc il prend le courage de choisir son attachement. Ce n'est pas facile parce que les gens, la plupart du temps, on nous affecte des identités, on nous affecte des attachements. Moi, je voudrais que le monde puisse rester le lieu dans lequel chacun peut, par la volonté, décider de son attachement. Il est noir, il est venu à 13 ans en France, il se dit français, je ne vais pas l'embêter. Je ne vais pas lui coller l'africanité au bout du cœur. Je ne vais pas lui donner un sac rempli de toute l'histoire du monde noir. Il a décidé de choisir de se marier avec la France. Je respecte cette volonté. Et puis, il exerce un bon métier. Le cuir, la cordonnerie, la fabrication... Pas la cordonnerie, la fabrication des ceintures en cuir. Et ça, c'est extraordinaire. Je l'admire pour son courage de se définir lui-même. Tout le problème que nous avons, c'est que les gens ont peur ou n'arrivent pas à se définir eux-mêmes. Et parfois, pour rentrer dans le politiquement correct, eh ben, ils rentrent dans des acceptions comme Noir de France, qui ne veulent rien dire. Voilà. Voilà au moins un homme qui a décidé d'être celui qu'il voulait être et il ne voudrait pas que quelqu'un lui donne sa définition.